père de Michelle Obama disait toujours « N'oublie jamais que derrière chaque personne, il y a le fil invisible de son histoire. » Donc quand quelqu'un est dans la haine ou fait pas forcément du bien ou en rajoute au malheur du monde, bah, ça vaudrait le coup de se dire « Tiens, c'est quoi le fil invisible de son histoire ?»
Je crois qu'il faut se brûler, il faut vivre, se reconquérir.
Parce que les femmes sont fortes.
Celles qui osent.
Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait ?
Celles qui osent.
Bonjour Frédéric.
Salut Lucie.
Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de Celles qui osent. Puisque tu es, je t'en ai parlé, la première personne de genre masculin.
Non, pas le premier homme à avoir marché sur la Lune, mais le premier homme à être dans ton podcast.
Exactement. Je vais te poser une première question qui pourrait sembler simple, mais qui ne l'est pas tant que ça. Qui es-tu ?
Alors moi, je vais te répondre, mais avant, j'ai une question. Pourquoi décider désormais d'ouvrir le podcast aux hommes ?
Par frustration, puisque lorsque j'ai créé Celles qui osent, on avait l'intention de n'interviewer que des femmes. Et je vois au quotidien beaucoup trop d'hommes que j'admire pour me priver de les interviewer.
Génial. Ok, super, c'est la bonne raison. Il y a un petit compliment au passage, du coup, donc je suis ravi. Alors, qui es-tu, évidemment, c'est la question la plus vaste. Je viens de comprendre maintenant pourquoi ça allait durer trois quarts d'heure. C'est dur de se présenter. D'ailleurs, je fais aussi moi-même des dîners parfois avec des gens qui ne se connaissent pas. Et je leur dis « Présentez-vous sans dire ce que vous faites ». Et souvent, on ne sait pas faire. Donc, je ne vais pas parler de ce que je fais, je vais essayer de parler de ce que je suis, ce qui est très compliqué aussi. Donc, je suis un citoyen de cette planète, fasciné par, par tout ce qui est vivant sur cette planète. C'est évidemment le sapiens, qui est un peu au centre de l'action pour nous, mais pas que. Moi, je suis assez fasciné par le règne animal, le règne végétal. Et cette expérience qu'on appelle la vie, c'est un truc qui me fascine et que j'observe comme un entomologiste des émotions. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de faire un métier passion, et mon métier, ça a été de filmer souvent des rencontres, des interactions entre des êtres humains, des émotions. Et je suis fasciné par tout ça, par ce qui nous meut, par les affinités des uns des autres, par ce qui donne du sens à une existence. Donc voilà, donc je suis un être humain curieux, on va dire, qui ne se lasse pas des rencontres, qui se nourrit des rencontres. Et qui parfois les filme, mais pas toujours, parce qu'au fond, ma vie en dehors des caméras ressemble beaucoup à ma vie devant les caméras. Voilà, c'était une petite description, une description rapide.
C'est quoi pour toi oser ?
Oser, c'est déjà affronter une peur, parce qu'en fait, quand on ose parler à quelqu'un, quand on ose se lancer dans un projet, on accepte l'idée qu'il peut y avoir un échec. Quand on ose aborder quelqu'un, on accepte l'idée qu'on puisse être rejeté, ce qui est le pire pour un être humain. Quand on se lance dans un projet, on prend le risque de vivre ce qu'on appelle l'échec, et ce que beaucoup sous nos contrées en fait, redoutent. Il y a des endroits sur Terre, des endroits, les pays anglo-saxons par exemple, où on a moins peur de l'échec. D'ailleurs, dans les grandes entreprises, on engage quelqu'un qui a vécu au moins 2-3 échecs, parce que, comme dirait Nelson Mandela, une de mes idoles, lui dit « moi je connais pas l'échec, c'est où je réussis, où j'apprends ». Voilà. Donc du coup, oser, c'est déjà accepter de surmonter cette peur de l'échec, la peur du rejet. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué assez vite, mais pour des raisons de survie. En fait, j'étais un enfant et un adolescent très, très, très timide, assez renfermé et très complexé. J'avais pas une estime de moi assez grande. Et d'un coup, quand je dis survie, c'est-à-dire qu'au fond, j'avais grandi, on va dire, dans un environnement assez toxique. Je l'avais déjà dit, mon père était quelqu'un de très sévère à l'époque. Et donc, c'était un environnement assez anxiogène et mon cerveau, en fait, s'échappait en dehors du présent. J'étais tout le temps ailleurs et tout le temps en train de rêver. Donc, finalement, j'ai rêvé pour des raisons de survie. Et ensuite, quand j'ai eu envie d'appliquer mes rêves, d'aller vers mes rêves, il y a eu cette obligation d'oser. Et j'avais une phrase que j'ai améliorée depuis, mais c'était déjà adolescent. Je me disais toujours « qui ne tente rien n'a rien ».« Qui ne tente rien n'a rien ». Ça m'obsédait. C'est-à-dire, je me disais « bon, de toute façon, le nom, je l'ai déjà ». J'avais ça. Après, je l'ai rendu plus sophistiqué avec une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup. Il faut viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Et alors, essayez, vous allez voir que ça se vérifie dans 100% des cas.
Est-ce que tes parents étaient audacieux ?
C'est intéressant. C'est intéressant parce que j'aimerais leur demander s'ils se voient comme audacieux. Est-ce que moi-même, je les ai vus comme audacieux ? Ils ont fait des choix. Donc quand on fait des choix, c'est audacieux. C'est-à-dire que mon père est né au Maroc, il a rencontré ma mère pendant son service militaire en France. Ensuite, j'ai vécu un peu au Maroc quand j'étais petit, puis ensuite en France. Donc déjà, le fait de déménager, c'est audacieux, de changer d'environnement. Ensuite, on est allé habiter en Espagne à la mort de Franco, parce que mon père était croupier dans les casinos. Donc c'était assez audacieux de sortir les enfants de l'école, qui allaient faire des cours par correspondance. Donc finalement, il y a de ça, on pourrait dire ça. Même si, parce que tu me poses la question, finalement, je ne les avais jamais vus comme audacieux. Parce que j'ai plus retenu leur peur, en fait. Et on est tous fait de ça, évidemment. Et je sais que ma mère était une mère assez anxieuse. Quand on sortait, c'était fait attention à ceci, fait attention à cela. Je vois aujourd'hui, quand mon fils de 25 ans est dans Paris à 23h, elle n'endort pas la nuit, alors que lui, c'est sa vie. Donc du coup, j'ai retenu plus les peurs. Et je crois que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à essayer de leur montrer que c'était mon moteur, en fait, on va dire au début de ma vie d'adulte, de jeune adulte, de leur montrer qu'ils avaient tort d'être anxieux, qu'ils avaient tort d'avoir peur de tout, que tout était possible. Moi, je viens d'un milieu où il y avait une sorte de lutte des classes, c'était un milieu modeste. Il y avait, a priori, des choses qui ne nous étaient pas permises, des endroits qui n'étaient pas accessibles. Et je crois que c'était quelque chose qui était très important pour moi de me dire « Ah bon, mais pourquoi pas moi ?»« Mais non, mais pourquoi pas moi ?» En fait, il y avait ça. Donc, est-ce que mes parents étaient audacieux ? En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont transmis de manière consciente, pour répondre à ta question.
Tu as des frères et sœurs ?
Et j'ai deux sœurs plus jeunes, oui.
Elles sont audacieuses ?
Eh bien, ce serait terrible d'ailleurs, parce que personne ne m'a jamais posé la question comme ça. Et du coup, si je répondais spontanément, je dirais non, dans le sens où... parce que évidemment, c'est pas... mes sœurs, ce n'est pas les sœurs de Mike Horn, on va dire ça comme ça. Mais en revanche... oui, forcément, parce que là aussi, elles ont fait des choix. Et quand on fait des choix, on est audacieux dans l'existence, finalement. Pas besoin d'avoir un Oscar ou d'avoir la Légion d'honneur pour être considéré comme audacieux. Chaque seconde de notre vie, on fait des choix. Le fait de parler à ses voisins ou de ne pas parler à ses voisins, bah, c'est audacieux, parce qu'on s'expose au rejet. Le fait de s'écouter soi-même pour dire « Tiens, j'ai besoin d'un massage », c'est audacieux. Parce qu'on va vous traiter d'égoïste, on va dire « Ça va, on s'emmerde pas ». Alors qu'on sait désormais qu'on ne peut pas s'occuper des autres si on ne s'occupe pas de soi. Donc je crois que finalement, on est audacieux 1000 fois dans la journée sans même s'en rendre compte. On se trompe de route, on y va, on dit « Allez, c'est parti, c'est celle-là ». C'est de l'audace. Donc finalement, l'audace, elle est partout. J'aime bien ton approche et ton angle. J'avais jamais vraiment vu l'existence à travers ça.
Alors on a une phrase célèbre d'Audiard dans les Tontons Flingueurs qui est « Les cons, ça osent tout ». C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et je vais faire appel à tes souvenirs pour rendez-vous en terre inconnue. Est-ce que tu t'es retrouvé parfois avec des célébrités qui ont osé au mauvais moment et avec les mauvaises personnes ?
Alors c'est intéressant parce que effectivement nous on est accueillis par des gens qui sont des peuples autochtones et donc du coup qui sont des minorités dans leur propre pays, qui sont souvent méprisés ou harcelés et qui doivent nous faire confiance. Et donc mes équipes qui partent là-bas longtemps à l'avance, qui passent 3 mois avec eux, sont des gens à qui on a envie de faire confiance. Et après, à nous d'être à la hauteur. Donc c'est vrai que l'invité est choisi pour sa délicatesse aussi, pour son élégance, son intelligence, sa subtilité. Et donc je dirais que ça ne m'est pas arrivé de partir avec quelqu'un qui osait faire un truc mal approprié. Ensuite, les gens qu'on va voir sont très indulgents, parce qu'ils savent qu'on n'est pas de la tribu. Nous, je vois qu'ils nous font goûter quelque chose. Parfois, ça peut être cauchemardesque parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Mais en fait, on est là en train de dire « Oui, c'est très bon et tout. » Alors qu'eux, quand on leur fait goûter un truc de chez nous, ils le recrachent. Ils ne cherchent pas à nous faire plaisir. Donc, il y a peut-être un invité qui a dit « Non, je ne veux pas goûter », qui a osé dire « Non, je ne veux pas goûter », qui a l'impression de blesser. Et en fait, honnêtement, ceux qu'on va voir sont vraiment, vraiment indulgents et vraiment assez doux avec nous. Et ils n'attendent pas des choses incroyables. Donc, je n'ai pas le souvenir d'un invité qui m'a gêné parce qu'il était audacieux au mauvais moment, si c'est bien la question que j'ai comprise. J'ai pas ce souvenir là.
Question bonus, tu produis toujours Rendez-vous en Terre Inconnue, est-ce que tu as prévu d'aller en tribu Kanak ?
C'est intéressant parce que je sais que toi tu vis en Nouvelle-Calédonie, je connais pas du tout la Nouvelle-Calédonie, ça m'attire beaucoup. Alors c'est vrai que sur le plan perso, c'est pas un truc qu'on voit tous les 4 matins parce que c'est quand même un peu loin. Et il se trouve qu'en Rendez-vous en Terre Inconnue, on a toujours été voir des peuples autochtones qui vivent un peu en marge de notre monde. Et je ne sais pas, en fait, à quel point il y a des Kanaks aujourd'hui qui vivent en marge de notre monde. En même temps, j'ai créé une émanation de Rendez-vous en Terre Inconnue qui s'appelle Nos Terres Inconnues, où c'est sur la France. En tout cas, on va dans des endroits comme les Pyrénées-Atlantiques, comme le Jura, comme les Cévennes. Et donc, dans ce cadre-là, on pourrait aller effectivement, pour le coup, là-bas. Et donc ça me fait assez rêver. Donc je ne sais pas prévu là tout de suite, mais ça me fait assez rêver.
Tu as des personnes au nord de la Nouvelle-Calédonie ou qui ne sont tout simplement pas à Nouméa, qui ne sont jamais allées à Nouméa. Et tu as vraiment des tribus qui sont complètement déconnectées, en tout cas de notre monde à nous. Et je pense que ça fait partie de nos terres inconnues. On passe sur un tout autre registre, mais tu voulais pas les questions à l'avance, donc tant pis pour toi. Peux-tu me donner ta définition de l'amour ?
Ma définition de l'amour ? Alors, effectivement, j'ai pas préparé cette... Qu'est-ce que dit le petit Robert ? Je sais pas. Bon, l'amour, on va dire qu'il y a mille formes d'amour, puisqu'on peut aimer son enfant, ses parents... une personne avec qui on a envie de partager l'existence. Ce que je peux dire, c'est que c'est, de mon point de vue, le moteur essentiel du sapiens. Et là, j'ai des chiens, je pourrais dire la même chose, d'ailleurs. Donc, en fait, c'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'en fait, on est seul et on meurt seul. Cette phrase me déprimait quand j'étais gosse, mais au fond, en tant qu'adulte, je vois bien de quoi on parle. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'avoir des liens très, très forts avec d'autres, encore une fois, avec des animaux et avec des sapiens. Et donc, dans ce lien très fort, il y a de l'attachement. Évidemment, dans les liens amoureux, il y a du désir. En tout cas, il y a l'idée que l'autre compte. Et il peut y avoir une sensation de manque, même si c'est moi, pour le coup, c'est une sensation que j'adore. Je fais partie des gens qui sont terrorisés à l'idée de la routine. Et donc, du coup, j'aime bien cette idée de ne pas être tout le temps ensemble. Ça, je ne supporterais pas de faire partie des meubles, en fait. Donc, la sensation de manque, c'est un indice. Pour certains, c'est la jalousie. Ça aussi, j'ai appris qu'il y a des gens qui adorent être avec des gens jaloux et il y a des gens qui détestent. Moi je déteste parce que c'est fatigant et que c'est inapaisable, mais par contre il y en a qui adorent parce qu'ils ont l'impression d'être au cœur de l'action, d'être important. Ils ont l'impression quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, waouh, ça va faire réagir l'autre. Donc je crois qu'il y a autant de formes d'amour que d'êtres humains sur cette terre, en vérité. Mais en tout cas, ce que je vois en anglais, il y a un mot que j'aime bien, c'est to care, c'est-à-dire prendre soin. Donc finalement, même des infirmières qui prennent soin, qui font des horaires incroyables pour prendre soin de leurs patients, bah, j'y vois de l'amour, j'y vois de l'attention. Même des gens qui sont masseurs, que je vois comme des réparateurs de l'humanité, d'un seul coup, pendant une heure et demie, cette personne que vous connaissez à peine va prendre soin de vous. Mais vous allez, même chez un charcutier, j'ai le souvenir d'une émission que je faisais qui s'appelle La parenthèse inattendue. Et en fait, on allait avec mes invités chez Jean-Philippe, dans un village d'à côté, la charcuterie. Donc il a vu défiler tout le show business, c'était assez drôle, il ne savait jamais qui arrivait, il avait l'air surpris de rien. Et donc, un jour, mon équipe me donnait toujours une petite phrase sur lui pour avoir une discussion différente. Et là, on me dit, ils savent ce que je vais en faire, ils me disent, bon, ben Fred, j'ai appris qu'il a qu'un seul jour de repos, c'est le lundi, et tu sais ce qu'il fait le lundi ? Je dis non. Ben, en fait, il fait du boudin. Donc je démarre, Jean-Philippe, bonjour, etc., ça va ? Bon, dites-moi, il paraît que vous ne reposez pas beaucoup, pourquoi ? Ben, parce qu'il paraît que vous faites du boudin le lundi, il me dit, c'est vrai. Et je dis, je peux savoir pourquoi ? Et il est un peu gêné, il dit, ben, ça lui paraît évident, il dit, ben, parce que j'aime bien, vous aimez quoi ? Ben, j'aime bien faire plaisir. Et je dis, mais comment vous savez que vous donnez du plaisir ? Et il dit, ben, les gens me le disent. Mais comment ils vous le disent ? Ben, ils me disent c'était bon. Et la Franck Dubos se retourne, il écoutait de loin, il fait c'est comme un orgasme. Donc tous les gens qui font des métiers de bouche, les gens qui sont en cuisine, etc., ben, c'est aussi de l'amour. On dit, et puis il y a le grand philosophe Pascal Obispo qui a dit le temps c'est de l'amour. Donc passer du temps avec quelqu'un, aller faire les courses de votre voisine qui ne peut pas, etc., c'est de l'amour. Donc moi je suis quelqu'un qui voit ça partout. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont des discours de haine en politique aujourd'hui. Voilà, et je pense à la phrase du père de Michelle Obama. Le père de Michelle Obama disait toujours « N'oublie jamais que derrière chaque personne, il y a le fil invisible de son histoire. » Donc quand quelqu'un est dans la haine ou fait pas forcément du bien ou en rajoute au malheur du monde, bah, ça vaudrait le coup de se dire « Tiens, c'est quoi le fil invisible de son histoire ?» On sait tous maintenant que Hitler a été rejeté dans sa vie puisqu'il a été rejeté des Beaux-Arts et beaucoup de gens se demandent « Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été rejeté ?» Eh ben, je crois qu'il faut qu'on soit tous attentifs à ça. Au fond, nous, dans nos vies, on peut rejeter des gens, des fois sans s'en rendre compte. Hein. On peut exclure et rejeter, et ça donne le pire. Les études scientifiques ont montré que le pire pour un être humain, c'est le rejet. Et on a tous vécu des moments de rejet, ce qui, à chaque fois, nous, quand on vit des moments de rejet, finalement, c'est un petit trauma, on se referme. C'est quelque chose de très douloureux, on peut l'admettre ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui rend vulnérable, qui fragilise, et qui peut avoir des conséquences, parce que d'un coup, on peut ne plus faire confiance, et c'est le pire. D'ailleurs, on est dans cette société aujourd'hui, comme disait Michel Serres, qui traverse une crise de confiance. On n'a pas vraiment confiance aux politiques, on n'a pas confiance aux industriels, on n'a pas confiance à l'industrie pharmaceutique, on n'a pas confiance à la justice, on n'a pas confiance aux médias. Et donc, c'est intéressant. C'est l'enjeu, au fond, de l'humanité aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est cool de se dire, tiens, à qui je fais confiance ? Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui veulent notre confiance en période de campagne politique, présidentielle. on voit bien qu'il y en a qui ne méritent pas notre confiance. On voit bien qu'il y en a qui sont habitués à mentir, pour qui le mensonge et la réalité, c'est la même chose. Et moi, c'est bien de revenir à cette idée, de se dire, bon, ben ça, est-ce que je te fais confiance ? J'ai un pote qui fait un podcast que je vous invite d'écouter, qui s'appelle « Dites à l'avenir que nous arrivons ». Et quand il dit à son invité, « Je suis ravi de t'avoir ici parce que je te fais confiance », là, il dit pourquoi ? Ben, c'est la clé de tout, en fait. À qui faisons-nous confiance ? Et j'ai oublié la question, mais je sais que c'est ma réponse.
J'ai eu bien plus que ce que j'espérais, mais je voudrais que tu me parles de l'amour, pas universel, l'amour amoureux, si tu veux. Alors, c'est quoi ta définition de l'amour amoureux ?
L'amour amoureux, il y a autant de définitions que de personnes, encore une fois. Non, mais c'est sérieux. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire que j'ai la même que tout le monde ?
Non,
quand on dit définition, j'ai lu quelque part qu'on n'a pas tous les mêmes besoins en amour. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre qu'on les aime. Il y en a qui ont besoin d'être touchés. Il y en a qui ont besoin de voir des gestes.
Frédéric, parle-moi de toi.
Oui, bah moi, je fais partie des gens qui attendent pas grand-chose des autres. Ça peut choquer. Mais parce que du coup, je suis tout le temps surpris. Et je suis tout le temps... et donc, tout ce qu'on me donne, que ce soit un regard, de l'attention, un conseil, une main sur l'épaule, je vis tout ça comme un bonus, en fait. Donc, en amour, on va dire que je suis pas très exigeant sur le papier. Et je suis toujours surpris par ce que me donnent les gens. Moi, je fais partie des gens pour qui les mots sont importants. Je suis un verbal. Et je suis très tactile. C'est-à-dire que si jamais on ne me touche pas, j'ai l'impression de dessécher. Donc voilà ma manière à moi d'être amoureux. Et ensuite, je suis plutôt un fusionnel indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est deux, ben, le reste du monde n'existe pas. Mais par contre, comme je disais, j'aime bien le manque. Et à un moment donné où il y a une petite séparation, on vit nos vies, on remplit, on se nourrit. Parce que je sais que le fusionnel, totalement, c'est très dangereux. Et j'aime bien les retrouvailles. Voilà. Donc voilà le genre d'amoureux que je suis, je crois. Je crois, mais c'est très compliqué, il faut demander aux autres, en fait, quel genre d'amoureux je suis, parce que moi, je ne me regarde pas vivre.
Tu connais le point de vue de Sartre sur l'amour, enfin, ce qu'il en pense.
Donc, il n'est pas très optimiste, mais...
Alors, si il donne la définition de l'amour, bon, je te résume vraiment, mais j'en profite pour conseiller le podcast du précepteur sur l'amour par Sartre. Et donc, il dit que quand on aime l'autre dans sa liberté de nous aimer. Puisque l'amour sous contrainte ne fonctionne pas. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça ?
Je me suis marié à 25 ans. Et c'est une très très belle histoire, c'est une grande partie de ma vie, j'ai un enfant, etc. Donc ça me convenait, est-ce que ça me convient ? Moi, il y a un côté éphémère, il y a une date de péremption dans « je t'aime ». C'est-à-dire que « je t'aimerai pour la vie », ça je ne crois pas à ce genre de phrase, parce qu'aucun cerveau humain n'est capable d'imaginer son ressenti futur. Donc savoir que je t'aimerai dans 10 ans, 20 ans, je suis incapable, c'est les événements. Et puis j'aime bien cette idée de ce côté éphémère parce que c'est comme entretenir un feu en fait hein, et, on peut pas aimer par inadvertance, on peut pas aimer par négligence, ça demande de l'attention et donc ça me plaît. Donc bon, sceller un mariage, il y a un côté magnifique dans cette envie de le dire au monde et je trouve ça très beau. Et moi, quand je suis invité dans un mariage, j'adore faire partie de cette célébration et j'adore voir cette complicité, etc., quel que soit le temps qu'elle dure. Moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais vécu les ruptures comme un échec. Il y a des gens qui ont l'impression de rater leur vie quand ils se séparent parce qu'ils se sont fabriqués un modèle. Mais moi, perso, il y a une phrase qui m'habite, une phrase espagnole qui dit « No nos quitarán lo bailado », on ne nous enlèvera pas ce qu'on a dansé, ce qui est vécu est vécu. Donc à l'échelle d'une vie, qu'on soit resté 5 ans ensemble, 10 ans, 15 ans, quoi qu'il arrive, c'est important. Et même des fois, quelque chose sans lendemain, c'est important. Il y a des gens qui peuvent changer votre vie avec un regard. Donc moi, je suis un peu universaliste, effectivement, hein, dans qu'est-ce qu'on s'apporte. On fait de notre mieux, de toute façon. Et je ne comprends pas non plus qu'on puisse détester des gens qu'on a aimés. Parce que quand les gens disent « Ouais, c'est un connard !» Je dis « Ah bon, t'as aimé un connard pendant 15 ans. Ben bravo, t'as un goût incroyable. » Donc je ne comprends pas qu'on puisse détester. On peut dire « Ouais, on n'arrive plus à communiquer en ce moment, c'est une chose. » ou alors je suis vraiment déçu. Enfin, on peut vivre toutes les émotions. Donc sceller le mariage, pas obligatoire, mais c'est beau aussi. Et ensuite, aimer l'autre dans sa liberté d'aimer, ben, aimer l'autre comme il est. En fait, il y a beaucoup de sages qui disent le vrai amour, c'est aimer l'autre comme il est. C'est-à-dire, si dès qu'on veut commencer à changer quelque chose chez l'autre, et nous, on s'est connus, on était très jeunes avec la mère de mon fils, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle disait, tu veux pas t'améliorer? Elle me disait, tu veux pas. Je dis, non, mais je suis comme ça. Elle me dit, ah, tu veux pas t'améliorer? Effectivement, c'était imparable.
Améliorer pour qui?
Ben voilà. Et j'ai découvert, en fait, à 54 ans, dans toutes les expériences que j'ai pu vivre amoureuses, que finalement, ce que l'autre appelle un défaut, c'est souvent un besoin de l'autre qu'on ne remplit pas. Par exemple, mon ex-femme trouvait que j'arrivais toujours en retard parce que son besoin à elle, c'était d'arriver à l'heure. C'était pas le mien. Donc, je prends cet exemple, mais c'est vrai. Et donc, à chaque fois que quelqu'un nous dit « Ouais, ton défaut, c'est… » ou alors « Son défaut, c'est… » Non, c'est un besoin chez toi que je ne remplis pas. Alors, faire un effort, j'y crois pas beaucoup, parce qu'on dit que le naturel revient au galop, etc. Et puis moi, à l'âge que j'ai vraiment cette sensation que c'est ça qui me plaît. C'est, j'aime quand on m'aime comme je suis, parce que je fais de mon mieux, quoi qu'il arrive. Et puis, j'aime bien les gens… avec justement leurs particularités. Dans un film de fiction, on aime un personnage avec plein de particularités. Dans la vraie vie aussi. Moi, la perfection ne m'attire pas, et on dit souvent, dans la perfection, il n'y a pas d'émotion. Donc, aimer l'autre comme il est, dans sa manière d'aimer, etc. Après, on peut avoir des besoins pas remplis. C'est-à-dire, si on est tactile et que l'autre ne touche pas, c'est important d'être attentif à ça, parce qu'on se dit, là, il y a une souffrance. Cette personne n'y est pour rien, ce n'est pas de sa faute, mais moi, c'est un besoin chez moi qui n'est pas rempli. Donc, voilà, aimer l'autre dans sa liberté, c'est beau de nous aimer.
Est-ce que tu écris un journal intime ?
J'ai écrit un journal intime quand j'étais adolescent, mais comme j'étais assez terrorisé par mon père et que je confiais des choses que je vivais, que je ressentais, c'était très rigolo. J'avais 13-14 ans. J'ai retrouvé ça. Et en fait, il y avait tout le temps des petites phrases avec que des initiales. Par exemple, J-E-E-B, ça veut dire « j'ai été en boîte ». Je ne voulais pas que mon père le sache. Voilà, je l'ai fait qu'une fois, mais je n'avais pas confiance, j'avais peur que quelqu'un le lise. Donc, je n'ai jamais écrit de journal. Par contre, ça m'est arrivé à des moments très difficiles de ma vie, des moments où je traversais des émotions très dures, d'écrire, mais là aussi par instinct de survie. Parce que d'un seul coup, les chercheurs appellent ça la régulation émotionnelle. Quand on écrit, en fait, c'est important de savoir que ça existe. C'est que d'un seul coup, on va le mettre d'abord, ça va éviter de ruminer, puisqu'on l'a posé. Mmh. Et ensuite, de le lire d'un coup, il y a une forme d'universalité là encore. Dans ce qu'on écrit, et plus c'est intime, plus c'est personnel et plus c'est universel, disait Victor Hugo. Donc quand on écrit quelque chose de très personnel, il y a une forme, il y a un fragment d'humanité. J'ai jamais fait. En revanche, j'ai signé il y a 8 ans avec une grande maison d'édition. J'ai accepté de raconter mon histoire, mon parcours de ce petit provincial complexé qui va réaliser beaucoup de ses rêves. J'avoue que ça fait 8 ans parce que j'ai eu beaucoup de blocages. Alors à la fois, j'ai pas tellement aimé mon enfance, mais je voulais pas blesser mes parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, donc je savais pas comment raconter ça en étant sincère et en même temps sans tronquer la réalité. Il y a des moments où je me dis, mais je suis pas général de Gaulle, je vais pas faire mes mémoires. Il y a d'autres moments où je me dis, mais pourquoi j'ai passé ma vie à interviewer les gens sur leur histoire et pourquoi moi j'accepterais pas de confier mon histoire. Il y a des moments où moi je me rends compte que je lis que des livres d'experts et je me dis, mais je suis expert en rien. En même temps, parmi ces experts, il y a Christophe André qui est un psychiatre que j'aime beaucoup, qui est un ami, et qui m'a dit, mais frère, ton histoire, c'est juste la force du témoignage. C'est ton point de vue sur cette expérience qu'on appelle la vie. Alors bon, là, je me pose des questions métaphysiques. À un moment donné, je complexais, je trouvais que c'était pas bien écrit. Finalement, je dis que c'est pas si mal. Bon, voilà, je suis dans une période où là, j'ai traversé une période compliquée et du coup, ça m'a remis à l'écriture. Et c'est ce que dit Zazie dans une de ses chansons, d'ailleurs. C'est qu'elle n'arrive pas à écrire sur les choses heureuses. C'est assez marrant. Donc, bon, finalement, c'est bon signe que j'ai pas écrit tant que ça. Ça voulait dire que c'était plutôt pas mal, ma vie.
Tu aimes voir les gens heureux et tu fais tout pour qu'ils le soient.
Comment tu sais ?
Parce que je l'ai vu. Je l'ai senti. Tu me parlais d'ailleurs d'autocompassion hier soir, pas encore dans ce podcast. Tout ça demande de l'énergie. Alors, d'où cela te vient et comment réussis-tu à te recharger en énergie ? Parce que je sais que ça demande beaucoup d'énergie de donner aux autres.
Pendant longtemps, je ne savais pas que je devais me recharger. J'étais complètement accro au moment d'interaction avec les autres. Et plus c'était improvisé, plus j'aimais. Donc, ça pouvait être en voyage, sur un quai de gare, ça pouvait être dans une soirée, une rencontre. L'autre m'a toujours fasciné. J'allais chercher des réponses, en fait, que je n'avais pas en moi, donc j'allais chercher chez les autres. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie assez riche, mais les autres ont vécu des tas d'expériences que moi, je n'aurais jamais vécues. Donc ça, c'était un truc qui fait que j'étais accro. Je pense que j'étais assez phobique de la solitude, mais je ne le savais pas. C'est-à-dire qu'au fond, j'avais jamais vraiment des soirées tout seul. Si j'étais en couple et que l'autre partait, bah, d'un coup, j'en profitais pour voir des potes, etc. Genre, bon. Et en fait, j'ai tout le temps été passionné par les autres, mais à un moment donné, je ne m'écoutais plus. J'ai découvert la méditation de pleine conscience. Donc là, j'ai appris à être dans l'instant présent. Et d'un seul coup, j'ai vu mes besoins. J'ai dit, waouh, là, j'ai besoin de solitude, là, j'ai besoin de silence. J'ai fait des retraites d'une semaine de silence. J'ai besoin de nature, j'allais faire des randonnées. J'ai besoin de travailler sur la communication non-violente. C'est venu petit à petit le fait de m'écouter. Et donc maintenant, pour me recharger, je sais que j'ai souvent besoin de la nature et du silence. C'est comme ça que je me recharge. Mais des fois, c'est le contraire. On peut avoir besoin d'une bonne soirée entre potes parce qu'on a beau savoir qu'ils existent. Et ben, d'un seul coup, le fait de les voir dire des conneries, de voir cette intimité, de voir qu'on nous aime avec nos défauts, ben, ça booste. Donc c'est, aujourd'hui, c'est être à l'écoute de mes besoins. Ça, j'ai appris. J'ai fait beaucoup de développement personnel pour apprendre à être à l'écoute de mes besoins. Et voilà, c'est comme ça que je me recharge. Être à l'écoute. Alors qu'avant, je n'étais pas à l'écoute. Mais dans ta question, il y avait une autre question. C'était, ça démarrait par...
D'où cela te vient d'aimer autant, ouais, les gens et d'avoir cet optimisme et cette envie de voir les gens heureux?
Alors, moi, je crois que quand j'ai grandi, il y a eu des périodes très difficiles, puisqu'encore une fois, entre mes parents, c'était assez violent. Et j'avais pas l'impression qu'ils étaient heureux. En tout cas, j'avais pas l'impression que ma mère était heureuse. Je la voyais comme une victime. Et donc, je pense que j'ai eu le syndrome du petit sauveur, c'est-à-dire que je pouvais pas la sauver de ce qu'elle vivait. Et donc, du coup, j'ai développé ça. On est nombreux à avoir ce syndrome du sauveur. Donc, apaiser, réconforter, consoler, c'est un truc qui est un peu inné chez moi. Et ensuite, j'ai vécu des grands moments de solitude quand j'étais gosse, parce qu'on a déménagé en Espagne et j'allais pas à l'école, etc. Et du coup, quand je suis revenu à l'adolescence, j'ai envie de dire à la vie normale d'un adolescent, que j'étais au lycée, etc., j'avais un affect assez développé, quoi. Je surkiffais mes potes, qui sont toujours mes potes 40 ans plus tard. Mais du coup, il y avait un truc de j'avais besoin de l'autre. Et puis, je me suis aimé dans le regard des autres. C'est-à-dire, comme je ne m'aimais pas, j'avais pas d'estime de moi. En fait, à chaque fois que j'étais en face de quelqu'un, je préférais le regard de l'autre sur moi que mon regard sur moi, et c'est souvent notre cas. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'autocompassion des années plus tard. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on a parlé de l'estime de soi, on a compris que c'était la clé de tout. Si on a de l'estime pour soi-même, alors on est plus en mesure de se faire respecter dans la vie privée, dans le travail, etc. Si on se respecte, on nous respecte. Simplement, l'estime de soi, c'est... difficile, parce qu'on est nombreux à avoir ce qu'on appelle une haute estime de soi fragile. Et c'est dû aux événements qu'on a vécu, etc. Et puis j'ai vécu un truc assez fou il y a, on va dire, 4 ans, donc j'avais 50 ans. Et Christophe André, qui est un psychiatre incroyable, etc., qui a vendu des bouquins sur l'estime de soi, un jour a fait un aveu devant 3000 personnes en disant: il faut que je vous dise un truc, moi j'ai gagné de l'argent grâce à ces livres. Et on s'est rendu compte maintenant, avec le recul, qu'en fait, travailler sur l'estime de soi, c'était difficile. Et froid dans la salle, parce que ça donnait du... ça donnait de l'espoir de se dire qu'on pourra travailler sur son estime de soi. Et il caricature lui-même les exercices qu'il y avait dans ses livres il y a 20 ans. Ben non, se mettre devant une glace, dire « t'es un mec formidable », ça ne marchera pas. Donc, petit effroi, parce que ça donne de l'espoir. Et puis d'un coup, il dit « mais on a découvert mieux. On a découvert l'autocompassion. Les chercheurs ont découvert l'autocompassion. » C'est quoi? Ça veut dire se traiter soi-même comme on traiterait son meilleur ami. Et ça, ça a été assez dingue, parce que les études ont montré que 80% des gens sur Terre, et j'en fais partie, se maltraitent et sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec les autres. Là aussi, il y a plein d'explications, hein. Il y a forcément des petites voix. Et on a une petite voix intérieure assez maltraitante, et elle n'est pas venue toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, si on est dur avec soi, c'est parce qu'à un moment donné, on devait avoir l'impression qu'on avait besoin, on avait besoin d'assurer grave pour être aimé. Tous pour des raisons différentes, hein. Des fois, c'est justement des enfants qui ont été tellement aimés par leurs parents qu'ils voulaient être à la hauteur, donc ils se mettaient la pression et devenaient perfectionnistes. D'autres, au contraire, c'était mon cas, qui était plutôt dévalorisé et qui avait l'impression qu'il devait être parfait pour être aimé. Donc moi, j'ai développé un perfectionnisme maladif qui a fait que j'ai fait des choses, et encore une fois, je distingue ce que je fais et ce que je suis, mais en tout cas, j'ai fait des choses avec beaucoup, beaucoup d'exigences, et donc ça a parfois été célébré, ce que j'ai fait. Mais moi, des fois, ça me fait flipper, parce que je me dis, mais pour faire un truc comme ça, mais je me suis fait la rate au courbouillon. Donc, j'étais très concerné par cette histoire d'autocompassion. Je me suis dit, je veux savoir ce que c'est. Et j'ai découvert un stage. J'étais le premier en France à le faire. Et mon fils était avec moi, il avait 20 ans. Et on a fait un stage d'autocompassion en pleine conscience. Et là, en fait, c'est un protocole qui dure 8 semaines. En fait, c'est 2h30 par semaine. Et en fait, on fait des exercices. C'est pas du tout une thérapie de groupe. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on raconte sa vie. On nous propose de faire des... On est là en position de méditation, on nous dit, on demande de fermer les yeux et de penser à un événement difficile du passé, un événement résolu. Et là, on vous pose des questions. Quel besoin n'était pas rempli à ce moment-là, etc. On n'avait jamais vu ça sous cet angle. Et puis ensuite, il y a des exercices pour traiter les moments difficiles présents. Et c'est une caisse à outils, en fait. Et c'est extraordinaire. Et sur les 3 étapes de l'autocompassion, il y a la pleine conscience, être conscient qu'on se maltraite. Bon, ben, tout le monde n'en est pas conscient. Deuxièmement, l'humanité partagée. C'est-à-dire qu'il paraît qu'il y a une douzaine de souffrances sur Terre pour le petit sapiens que nous sommes. Ça voudrait dire que moi, je suis nul en calcul, mais il y a 7 milliards d'habitants. Ça veut dire qu'il y a, je sais pas moi, 500 millions de personnes qui connaissent notre souffrance. Et donc, du coup, c'est waouh, on se sent moins seul. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça, cette sensation de honte, d'avoir l'impression d'être nul, de ne pas savoir s'en sortir, de ne pas être à la hauteur et tout. Alors qu'en vérité, il y a 500 millions de personnes qui vivent le même truc que nous. Ça détend un peu. Et enfin, l'autocompassion, c'est arriver à se traiter soi-même, arriver à se dire des choses sympas. C'est facile à comprendre, mais c'est très très difficile à faire. Ça demande de la pratique. C'est comme les abdos. Pour avoir les abdos, comment on appelle, six-pack, tablette de chocolat, bon bah si je vois quelqu'un le faire, je dis « Ah ouais, ça va, j'ai bien compris !» C'est pas parce que j'ai compris que j'ai des abdos. Donc là, je vous ai expliqué le raisonnement, et après ça s'applique. Et dernière chose, en fait, c'est pas un truc miraculeux. C'est pas parce que j'ai fait le stage qu'après, je me maltraite plus jamais. Par contre, je le vois tout de suite quand je me maltraite, et je sais quoi faire. Et donc, du coup, je sais me traiter avec douceur, avec indulgence. Je finis par m'accepter avec mes imperfections. Et je peux vous dire que ça change la vie.
Et est-ce que je peux avoir suffisamment de notions pour le transmettre ?
Alors, quand on fait le stage, on se l'applique à soi-même. Moi, j'ai eu envie de le transmettre, effectivement. Et donc, du coup, j'ai vu qu'on pouvait être formé. Il fallait des prérequis. Et mes potes m'ont dit, mais tu les as. En fait, il faut avoir fait... C'est plutôt pas mal d'avoir fait de la pleine conscience. Ça fait 10 ans que je fais de la méditation de pleine conscience. C'est plutôt pas mal d'avoir fait des retraites de silence. Donc, j'ai fait des retraites d'une semaine plusieurs fois. Donc, finalement, et je me suis formé. Ça continue. Je suis en cours de certification. Et donc, là, maintenant, je suis habilité à pouvoir donner des cours d'autocompassion. Donc, apprendre aux gens à s'aimer. Donc, délivrer ces outils, ces exercices. C'est quelque chose qui se fait à deux. Et donc, dans les jours qui viennent et les mois qui viennent, je vais donner des cours en présentiel. Donc, c'est des groupes de 20. Et des cours, on va donner aussi des cours en virtuel. Là, je ne sais pas combien on a le droit d'être. Mais ça me plaît parce que, en fait, tous les jours de ma vie, maintenant, ça me saute à la figure quand je vois les gens se maltraiter. C'est quelque chose qui me rend triste. J'ai toujours aimé rendre les gens heureux, effectivement. Et je me perçois que, finalement, oui, il y a les événements de la vie extérieure, mais au fond, notre principal bourreau, c'est nous. Donc, aider les gens à se débarrasser de leur principal bourreau, c'est un super moteur, ça m'excite beaucoup. Et donc, ce nouveau job d'enseignant en autocompassion, c'est quelque chose qui me rend très, très heureux.
Et ça peut générer des frustrations quand tu as envie de voir les autres heureux, de voir qu'ils ne vont pas dans un sens qui pourrait mener au bonheur, parce qu'il n'y a pas d'autre objectif que le bonheur, quel que soit le chemin et quels que soient les moyens.
Et du coup, c'est pour ça que je faisais partie de cela. Et moi, j'ai compris au bout d'un moment qu'on ne pouvait pas rendre les gens heureux malgré eux. Il faut aussi accepter ça. Il faut se demander d'ailleurs pourquoi on veut rendre heureux cette personne. C'est nous qui avons notre petit syndrome du sauveur. Et puis, il faut se demander si cette personne a besoin de ça, si elle nous l'a demandé. Et un jour, mon psy me disait, mais arrêtez d'aider les autres. Je dis, ah super, donc je vais être un salaud. Il me dit, vous savez, entre salaud et Saint-Bernard, il y a plein de trucs. Et je lui dis, mais c'est quoi, comment je fais pour choisir ? Il me dit, déjà, aidez ceux qui vous le demandent. Mais quelle subtilité ! Parce que moi, les gens exprimaient un problème et je me sentais, spontanément, j'avais l'élan de leur venir en aide. Mais ils ne m'avaient pas demandé d'aide. Et les gens, ils ont besoin juste parfois d'être écoutés et pas de recevoir des conseils. Et combien d'entre nous, quand quelqu'un nous raconte quelque chose de triste, ça nous est tellement insupportable, on voudrait l'aider qu'on ne peut pas s'empêcher de dire « mais tu n'es pas tout seul, moi aussi j'ai vécu ça, mais tu devrais le voir comme ça ». Et donc l'autre, en fait, on le frustre parce qu'il avait juste besoin d'exprimer que c'était une souffrance. Et ça, je l'ai appris justement en autocompassion. On doit écouter l'autre et pas forcément conseiller... Parfois même pas forcément réconforté. Mon fils m'avait dit ça quand il était ado. Il me dit « Papa, c'est pas parce que je te parle d'un problème que t'es obligé de le résoudre. » Et moi, je connaissais pas ce que je viens de vous raconter. Et j'avais dit « Ah bah oui, mais pourquoi tu m'en parles ?» Puis un jour, à 18 ans, il m'a félicité au téléphone. Il me parlait d'un truc qui traversait. Et la femme me dit « Eh ben voilà, eh ben bravo, je sais même pas de quoi il parlait. » Et il me dit « T'as pas cherché à m'aider ?» Et c'était une leçon de vie, quoi. Une leçon de vie. Donc, vouloir que les gens soient heureux, c'est super. Faire le bonheur des gens malgré eux, c'est impossible. Attendre qu'ils nous demandent de l'aide, c'est pas mal. Et enfin, vous savez qu'en fait, on rend les gens heureux juste en souriant. Les études de psychologie sociale ont montré qu'en fait, quand vous souriez à quelqu'un, vous rendez 5 personnes heureuses par ricochet. Donc, c'est un truc de dingue. Donc, finalement, des fois, il ne suffit de pas grand-chose.
Je sais que cette question va être très dure. Je ne sais pas si tu vas réussir à y répondre. Parce que justement, toute ta vie est faite de rencontres, c'est vraiment ce qui te définit. Est-ce que tu peux me citer quelques-unes des plus belles rencontres de ta vie ?
Effectivement, je me disais, quand tu m'as dit « je ne sais pas si tu vas réussir à répondre », je dis « ah bah si, après j'y vais ». Mais effectivement, c'est extrêmement subjectif. Donc je vais essayer de penser à des gens qui m'ont fait du bien. Parce qu'en fait, sur Terre, il y a des gens qui nous font du bien ou pas du bien, mais ça va plus loin. Il y a des gens qui font ressortir le meilleur chez nous et des gens qui font ressortir le moins bon chez nous. Et ça arrive souvent. Des fois, on se retrouve en train de s'énerver, on se dit « mais pourquoi je me mets dans cet état ?» Ah, parce qu'il y a des gens qui savent faire ça avec nous.
Oui, mais ça nous permet d'en prendre conscience et de nous améliorer. Donc les gens qui font sortir le mauvais peuvent être très bénéfiques pour nous.
Oui, puis il y a des sages qui disent tes ennemis sont tes guides. À chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous pousse dans un retranchement, qui nous fait vivre des émotions désagréables, ça touche quelque chose chez nous. On continue d'apprendre sur nous. Hein, et ça touche quelque chose chez nous qui est intéressant. Mais du coup, rappelle-moi exactement la question. Qui sont les gens qui m'ont...
Tes plus belles rencontres.
Évidemment, c'est impossible de répondre parce que c'est tous les jours, à vrai dire. Tu l'as dit, les rencontres, c'est ma passion. Il y en a qui sont filmés, d'autres pas. Donc, voilà. Donc, spontanément, je vais penser à quelqu'un que j'ai rencontré avec Adriana Karambeu. Et c'était donc en Éthiopie, à 4000 mètres d'altitude. Il s'appelle Cissé. Et quand on l'a rencontré en terre inconnue avec Adriana, il luttait contre le mariage arrangé. Et en fait, c'était très difficile parce que c'était une tradition interdite dans le pays, mais dans cette vallée reculée, on continuait comme ça. Et lui, il a appris à lire et à écrire. Il a marié sa première fille à l'âge de 12 ans. Il a appris à lire et à écrire. Il avait 43 ans. Et à 43 ans, il a un petit livre à la maison. C'est les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Un petit livre illustré. Et là, il réalise ce qu'il a fait et il dit lui-même « J'ai enterré ma fille vivante. » Donc déjà, pensez à tous les gens que vous connaissez qui ne reconnaissent pas leurs erreurs. Là, le mec, il reconnaît son erreur. Et il décide de sauver sa fille d'après Yakabanesh. Il décide qu'elle ira à l'école. Et là, c'est un truc de dingue parce que, en fait, il a beaucoup d'ennemis. Sa famille a honte de lui, ses amis se détournent. Et la famille adverse, si j'ose dire, sa famille à qui sa fille était promise depuis la naissance, qui a donné beaucoup de cadeaux, il y a même des menaces de mort. Donc le mec, il est courageux, c'est l'arbre au milieu du torrent. Donc déjà, on a une admiration de dingue pour lui. Et puis, on retourne le voir 5 ans plus tard. En tout cas, mon équipe retourne montrer le film et Adriana décide d'y aller. Moi, je peux pas, je suis à la radio. Et elle lui pose une question. À un moment donné, elle dit « Bon, écoute, nous, tu nous as beaucoup marqué. » Parce que, voilà. Et, mais on veut savoir ce que toi, cette rencontre t'a apporté. Et là, sans faire d'effet, très spontanément, il dit « En fait, avant de vous connaître, je savais pas que j'étais courageux. » Et on peut s'arrêter un instant sur cette phrase, parce qu'on vit ça tous les jours, tous. Ben, en fait, moi, je savais pas qu'en portant mon regard sur cette personne, parce qu'il a vu dans notre regard qu'on le voyait comme un mec courageux, on a dû même lui dire. Je savais pas qu'on allait lui apprendre qu'il était courageux et que ça allait lui donner assez de courage pour éradiquer le fléau. Donc il a éradiqué le mariage arrangé dans cette vallée d'Éthiopie parce que d'autres humains, c'était nous en l'occurrence, l'avons vu comme quelqu'un de courageux. Et en fait, ce pouvoir, on l'a tous les jours. Demain, votre boulangère vous fait un sourire tous les matins, et n'hésitez pas à lui dire merci pour ce sourire, ça va l'encourager à le faire. Elle saura qu'elle ne le fait pas pour rien parce que ça vous met, vous démarrez la journée correctement. Et ça démarre par le plus banal. Et en fait, c'est un truc dont je suis conscient en fait. Je sais qu'on peut changer la vie des gens par un regard. Et c'est arrivé pour moi. Il y a une femme qui s'appelle Patricia Boutinaruel, j'aime la citer. C'est quelqu'un pour qui sur cette terre j'ai beaucoup de gratitude parce que moi j'ai vécu beaucoup d'années de chômage parce que mes idées, j'inventais des concepts de télé, mais. Les patrons de chaîne préfèrent un concept qui a marché dans 40 pays. Et moi, c'était un truc qui était dans ma tête, donc c'était compliqué pour eux. Bon, il y a une femme qui s'appelle Patricia Boutinaruel, qui était patronne des documentaires et des magazines de France Télévisions, qui a mis Terre Inconnue à l'antenne, alors que ça faisait des années que je me battais, qui a mis Panique dans l'oreillette à l'antenne, une émission que j'avais inventée, dont personne ne voulait pendant 7 ans, dont 2 ans de chômage. Et donc, je pourrais dire même qu'elle me voyait comme un génie, et j'avais l'impression d'être un génie. Parce que les études ont montré qu'on est comme on nous traite. Et ça aussi, c'est important pour nous de se dire, tiens, comment je parle à mes enfants, comment je parle à ma sœur, et comment cette personne me parle. Et en fait, ça influe notre manière d'être. Il y a une étude incroyable que beaucoup de psychologues connaissent, ça s'est fait en Angleterre dans les années 80. Et en fait, ils ont séparé les élèves d'un même niveau, on va dire la troisième, ils ont mis tous ceux qui avaient A ensemble, tous ceux qui avaient B ensemble, tous ceux qui avaient C, tous ceux qui avaient D. Donc, chaque classe avait un niveau. Simplement, ils ont menti au professeur, ils ont inversé les A et les D. Donc les profs croyaient qu'ils avaient les meilleurs du lycée ou du collège, mais ils avaient des cancres, et inversement. Et que s'est-il passé? Eh bien, les bons sont devenus beaucoup moins bons, et les pas bons sont devenus vraiment meilleurs. Parce que dans la vie, on est comme on nous traite. Et ça, c'est un truc qui est important de le savoir. Donc moi, quand cette femme... Donc quand tu m'as dit, c'est qui les gens, les belles rencontres? C'est les gens qui ont compté, qui ont cru en moi quand je ne croyais pas encore en moi, qui se sont battus pour moi, cette femme, Patricia Boutinaruel, elle s'est battue contre sa hiérarchie pour qu'arrive cette émission. Et donc, je pourrais... moi, c'est l'émotion qui me fait le plus pleurer, c'est la gratitude. Et c'est quelque chose qui me bouleverse quand, justement, quand... Alors que les humains peuvent se faire du mal, des fois sans faire exprès, mais des fois en faisant exprès. Moi, quand on se fait du bien les uns les autres, ça me bouleverse, en fait. Et donc, ces rencontres, c'est ça, dans le milieu professionnel, mais dans la vie privée, évidemment. La mère de mon fils, c'est une belle rencontre. Mon fils, c'est une belle rencontre. C'est pas juste parce que c'est mon fils. Je pense que même s'il n'était pas mon fils, je serais épaté par ce petit mec de 25 ans. Donc, non, des belles rencontres, il y en a plein. J'ai des amis qui sont dans ma vie depuis que j'ai 14 ans. Encore une fois, j'en ai 54. Voilà, il y a les gens... Enfin, C'est impossible. Les gens, j'ai souvent dit, je peux pas travailler avec des amis. Moi, c'est pas parce qu'on est amis qu'on va travailler ensemble. Moi, je travaille avec les meilleurs du monde. Mais par contre, je peux devenir très très ami avec les gens avec qui je travaille. En l'occurrence, mon équipe de Terre Inconnue, on a fait le tour du monde et on s'est jamais engueulé, ni à moins 35 degrés, ni à plus 40 ou 50 degrés. Et on s'engueulera jamais. Donc, c'est plus que de l'amitié. C'est au-delà de la fraternité, je sais pas le dire. Donc, ouais, moi, je suis ému tout le temps. Je me sens chanceux, là. Je me sens chanceux. Je me sens chanceux tout le temps, en fait, d'être en vie et de rencontrer des gens qui me stimulent. Et en amitié, j'ai la chance d'avoir des amis, on a des amis communs d'ailleurs, et ben voilà, qui me poussent dans mes retranchements, qui m'interrogent sur des trucs que je ne veux pas m'avouer à moi-même, sur des parties de moi que j'ai fui, etc., ou des émotions que j'ai parties, c'est ma vie à fuir. Donc en fait, oui, des belles rencontres, il n'y a que ça, en fait, dans ma vie. Il n'y a que ça. Donc j'en ai cité peu, mais il y en a beaucoup.
J'ai le souvenir d'une très belle rencontre qui m'a émue, puisque j'ai vu l'émission plusieurs fois et à chaque fois je verse beaucoup de larmes. C'est juste le passage de Muriel Robin qui retire son t-shirt et qui se met de la terre en Namibie, je crois. C'est ça. Très belle rencontre.
C'est magnifique parce que les femmes Imba, elles vivent comme il y a 2-3 siècles et tout. Elles sont effectivement presque nues avec de l'ocre et elles sont méprisées dans leur propre pays parce qu'il y a des femmes qui étaient comme elles et qui maintenant portent des vêtements. Et quand Muriel Robin décide de faire comme elles, elles se disent waouh, cette blanche qui prend l'avion, qui vient de loin, ne nous méprise donc pas. Et donc, Muriel, en faisant ça, bien sûr, c'est spectaculaire à l'image de notre point de vue, mais pour ces femmes, c'est une validation de ce qu'elles sont. Donc, oui, des rencontres comme ça, c'est. Justement, en faisant ce geste, elle a donné de l'estime de soi à ces Imba qui commençaient à en douter. Et c'est ça que j'aime dans les rencontres, c'est que c'est des interactions, et ça n'existe pas une rencontre qui ne nous fait rien. Il y a des gens qui nous ennuient, bah, c'est intéressant de dire tiens, pourquoi je m'ennuie avec cette personne ? Pourquoi je m'ennuie avec cette personne ? Pourquoi je me sens pas bien avec cette personne ? Peut-être parce qu'elle fait des petites vannes, pas cool, on appelle ça des pervers narcissiques. On ne sait pas, mais donc, je suis fasciné par ces interactions, par les rencontres.
Est-ce qu'il y a un poème que tu connais par cœur ?
Malheureusement, non. Il y en a un que je vais raconter sans le citer, mais qui est très beau, qui m'a même changé des choses importantes dans ma vie. Justement, dans la formation d'autocompassion, il y a un poème de Rumi. Alors Rumi, apparemment, c'était un poète soufiste, je crois, du XIIIe siècle. Ça paraît fou que ça ait été écrit au XIIIe siècle. Et à un moment donné, c'est de la poésie, hein, moi je vous racontais juste le sens, mais il raconte qu'en fait, Rumi dit, imaginez que vous êtes comme une maison, et puis les visiteurs, c'est les émotions. Et il y a des émotions qu'on ne laisse pas rentrer, des émotions qu'on tient à distance. On fuit nos émotions difficiles, ce qu'on appelle les émotions difficiles. Et que, en fait, pour se sentir bien, il faut ouvrir la porte, les laisser rentrer. Peut-être même ils vont dévaster la maison. Donc il y a des émotions qui peuvent dévaster les choses. Et à l'occasion de ça, je me suis rendu compte que pendant des années de ma vie, j'avais tenu à distance deux émotions, la peur et la tristesse. J'étais connecté à la peur des autres, j'avais envie de les réconforter. J'étais connecté à la tristesse des autres, mais moi-même, quelqu'un un jour m'a dit « Mais est-ce que tu t'autorises à être triste ?» Et j'ai dit « Mais purée, est-ce que tu t'autorises à avoir peur ?» Bah non, pourtant la journée j'ai peur de rien, mais par contre la nuit je peux faire des cauchemars. Donc donc ce poème de Rumi, je crois que je dirais le visiteur, je sais pas, il faudrait le retrouver. Mais il y a des poèmes comme ça, juste comme ça avec des métaphores, ça vous révèle des choses importantes de votre existence. Mais je connais aucun poème par cœur, à part le corbeau et le renard. C'est une fable.
La cigale et la fourmi ouais. Aussi certainement. Ouais. Tu viens de parler de la peur et du coup... Ça renvoie au tout début du podcast où justement tu disais que oser, c'est aller à l'encontre de la peur. Et là, tu me dis que tu ne laissais pas entrer la peur, donc tu as osé. Finalement, tu vois, on en revient là. J'aimerais maintenant que tu me donnes, dans tes œuvres préférées, un livre, une chanson, une œuvre d'art et une citation. Je vais te le redire, on commence par le livre.
Quelque chose que je recommande ?
Oui.
Je pense que j'adore. Il y a plein d'auteurs que j'adore. Annie Ernaux, qui raconte beaucoup des émotions très très personnelles, mais justement c'est très universel. Stephen Zweig, qui est un conteur incroyable, et quand vous lisez Magellan, vous avez l'impression qu'il était dans la tête de Magellan. Mais moi, je l'avoue que je lis peu de récits, peu de romans, et en fait, je suis toujours attiré par les essais. Et celui dont j'ai lu, je crois, tous les livres, c'est justement celui dont je parlais tout à l'heure, Christophe André. Et j'invite tout le monde à lire son dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle Consolation. Parce que moi, je pourrais écrire une demi-page sur la consolation, il a écrit un livre entier. Et c'est très complexe, la constellation, et c'est un besoin humain dont on parle peu, etc. Et voilà, donc je recommande les lectures de... Et mais Boris Cyrulnik aussi, il y a un de ses livres qui s'appelle « Demain, je dessinerai des soleils ». Et en fait, ça parle de la résilience, mais vous pleurez plein de fois en lisant ce livre, vous vous reconnaissez, il raconte sa vie personnelle. Enfin, il y a cette vulnérabilité de l'être humain qui me fascine. Et il paraît que plus on est connecté à sa vulnérabilité, plus on est puissant, ce qui n'est pas le pouvoir, hein, parce que le pouvoir, c'est sur quelqu'un, c'est avoir un ascendant, la puissance, c'est ce qu'on émane. Donc j'ai fait exprès de ne pas en choisir qu'un, j'ai pas réussi, mais un livre, allez, n'importe quel livre de Christophe André ou de Boris Cyrulnik. Et tant pis pour les autres, pardon de ne pas les avoir cités.
Alors une chanson.
Alors
je vais t'en demander deux, je triche moi-même. Une chanson vraiment qui te met en joie, qui te recharge en énergie. Et une chanson que t'écoutes quand t'es triste.
Quand je suis triste, c'est Malheur. C'est la 5e ou la 9e, je me souviens jamais. Quand je suis triste, j'écoute cette musique-là et elle me prend bien profond dans les tripes. Mais bizarrement, alors que apparemment Malheur, quand il l'a composé, il était triste. Moi, elle me met en joie. Enfin, elle me met en joie. En fait, c'est pour répondre à ta question. C'est quand je suis triste. Voilà. En tout cas, elle va chercher bien profond. Et il y a quelque chose de très grave dans les sons, etc. Mais il y a un truc qui est la beauté de la vie malgré tout. Voilà, il y a un truc comme ça. J'ai écouté en burn-out. C'est la première fois que j'étais en burn-out. Et j'ai écouté cette musique. Elle m'a aidé à retrouver le goût, en fait. Retrouver l'envie. Ça, c'est Malheur. Sinon, il y en a plein. Mais je fais souvent écouter à mes amis qui vont pas bien une chanson que j'adore. Et il faut écouter bien les paroles. C'est implacable. C'est une chanson d'Étienne Dao, Le premier jour du reste de ma vie. De ta vie, d'ailleurs. Le premier jour du reste de ta vie. Et parce que c'est la vérité. Quand j'entends des gens dire « Oh là là, j'aurais adoré apprendre le piano. » Ah bon, pourquoi t'es mort ? Là, t'es en train de me parler, c'est que t'es vivant. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Et « Ah, j'aurais adoré quitter tout pour partir dans un orphelinat au Cambodge. Ben, » super, c'est maintenant. Enfin voilà. Donc ça, c'est un truc qui me rejoint. Puis la mélodie est super chouette. Voilà. Donc ça, c'est deux chansons. Après, tu mets du Goldman, tu mets tout Goldman. Et moi, c'est mon héros. Parce que c'est ma génération. Et que c'est quelqu'un, ceux qui l'aimaient pas croyaient qu'il était démago, moi je le sais sincère, mais c'est quelqu'un qui parlait à la France d'en bas, je me sentais faire partie de la France d'en bas, et d'ailleurs dans toutes ses chansons il y avait « c'est ta chance, j'irai au bout de mes rêves », etc. Et c'était ça, moi ça m'a guidé, ça m'a aidé à sortir de ma condition sociale, ça m'a aidé à surmonter mon manque d'estime de moi, c'était de croire en mes rêves. Et Goldman m'a beaucoup aidé à croire en mes rêves, j'ai eu l'occasion de lui écrire, et il m'a remercié, et c'était un grand moment. C'est plus drôle que ça l'histoire, mais elle est trop longue. Mais enfin voilà. Ce que je lui ai dit à un moment donné, vous êtes obligé de partir avec moi en terre inconnue, parce que vous me devez bien ça, parce que moi j'ai beaucoup souffert. Je savais que ça allait faire marrer à l'adolescence, parce que c'était un chanteur à minette. Et lui, il savait qu'il était méprisé par l'intelligentsia, etc. Et il m'a écrit, je sais combien vous avez souffert d'être fan de Goldman dans les années 80. Maintenant, c'est devenu une institution. Voilà, chanson préférée, c'était ça. Ensuite, tu m'as dit film. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un film qui m'a perturbé, enfin qui m'a... J'ai pas parlé pendant une heure en sortant de ce film. Et ça s'appelle The Constant Gardener. The Constant Gardener avec Rachel Weisz et Ralph Fiennes. Et c'est une histoire d'amour et un thriller. Voilà. Et donc j'en dis pas plus. Ça parle d'un vrai truc qui se passe dans notre monde, qui est vraiment un truc assez injuste. Et à la fois, il y a dans le couple quelqu'un qui est assez idéaliste, l'autre qui est plus dans le compromis, enfin il y a quelque chose de voilà, c'est hyper captivant, c'est une histoire d'amour hyper bouleversante, les acteurs sont fantastiques, voilà, c'est lui qui me vient, mais évidemment on en sait bien qu'il y en a des milliers de films qu'on aime, donc je vais pas réfléchir sinon je vais en citer d'autres. Et tableau
ou un artiste?
Ouais, un artiste, je suis pas extrêmement cultivé au niveau de la peinture. Donc c'est comme la musique classique, j'écoute tout le temps, mais je sais jamais ce que j'écoute. Moi, j'étais assez fasciné dans les années 80, parce que je faisais de la photo de mode, par les photographes de mode, par un mec qui s'appelle Herb Ritts, qui est mort maintenant, mais par un mec qui s'appelle Peter Lindbergh, qui faisait des photos de mannequins, on va dire, mais qui étaient des œuvres d'art. C'est-à-dire, d'un seul coup, il y avait tout, la lumière, le machin. Il y avait Herb Ritts et Peter Lindbergh, voilà, je veux dire, deux photographes que j'adore, qui sont dans le monde de la mode, mais qui sont bien plus que ça. Parce qu'il sublime le réel, en fait. Ça me plaît beaucoup.
Est-ce que tu as sublimé le réel dans cette interview ?
C'est une belle question, tu rebondis bien. Et j'ai sublimé le réel. En tout cas, j'ai essayé d'être authentique, de répondre sans faux semblant, tout en respectant mon intimité, et avec l'espoir qu'une anecdote ou quelque chose que j'ai pu raconter puisse faire écho chez quelqu'un qui nous écoute. Voilà.
Merci beaucoup, Frédéric Lopez.
Merci beaucoup, Lucie. Super question. Tu m'as posé des questions que personne ne m'avait jamais posées. Bravo à toi.
Merci. Cet épisode vous a été proposé par celkios.com. Retrouvez toutes les références de Frédéric en description. Nous vous remercions pour votre écoute et votre fidélité et espérons vous retrouver très vite pour une prochaine interview.